Utsita.
Utsita.
Attitude.
Attitude.
Utsitanitude.
Une émission préposée par Radio Languedoc. Présentée par Jean Tufou. Réalisée par William Baudry.
Monsieur Pierre Gallet, bonjour. Vous êtes né le 28 janvier 1921. Ça fait un bail.
Oui, Monaco.
Vous êtes né à Monaco.
Eh oui.
Et alors?
Mais je ne suis pas monégasque, hélas.
Mais vous êtes donc venu ici en Languedoc de bonne heure, en petit âge, vous étiez enfant.
Mais j'ai passé une partie de mon enfance à Monaco, une autre partie à Nice, où j'ai débuté au lycée Carnot. Je ne sais pas si vous connaissez. Avec la famille de Gérard Philippe.
Ah.
Gérard Philippe, Gégé. C'était mon copain. On se voyait tous les jours. Et en plus, le dimanche, on allait à la messe. La messe de Bon Secours à Cannes, c'est maintenant le Palais des Congrès. Oui. Bon, ben, enfin, à l'époque. Et Gégé, son frère Jean, nous étions toujours ensemble. On allait à la messe et on faisait les idiots jouer à cache-cache dans les confessionnals pendant que nos parents chantaient.
On n'était pas très sérieux.
Non, on rigolait, on dit, quand on a 4 ou 5 ans. Vous rigoliez pas. Et puis après, j'ai été à Antibes parce que je suis rentré au lycée agricole d'horticulture, et là, bon, je vais devenir bon élève parce que j'étais myope, je suis toujours. Mais ma mère voulait pas me mettre des lunettes à l'époque parce que c'était des verres et ça risquait de se casser. Alors j'étais toujours sur la touche à regarder les autres s'amuser, pas moi. Voilà. Et ensuite, je suis rentré à Montpellier. Voilà.
Et à Montpellier, vous avez fait quoi alors à Montpellier ?
Ben, à Montpellier, je suis rentré à l'école d'agronomie Place Viala, qui était l'ancien professeur qui a fait le grand voyage aux États-Unis en 1887. Bon. Voilà. Et puis, est arrivée la guerre. Après, ça a changé. Après, j'ai été étudiant à la Sorbonne, en chimie. Puis, j'ai appris les explosifs. Et l'année d'après, les Allemands vont me récupérer dans le cadre de l'échange des prisonniers. Ils nous envoyaient tous les prisonniers mal foutus, bras cassés, y crever, etc., et récupérer les jeunes pour nous envoyer dans les usines à Berlin. Bon, moi, une première fois, j'ai été pris et j'ai travaillé dans la vallée de la Loire, près de Blois, au domaine du Ripaud. C'est une usine atomique, actuellement. On ne peut plus y rentrer. Et là, avec les explosifs, ça va sauter. Et les Allemands, tout le monde narche Berlin. Pierre Gallet, il a fait narche Montpellier. Ils m'ont envoyé un télégramme en me disant, on vous attend. J'ai envoyé, oui, j'arrive. Je suis pas parti. Je suis resté.
C'était en quelle année, cela?
Ben, 1943. J'avais 18 ans. Là, en fait, le Ripaud, c'était la planque des polytechniciens, des élèves de l'école polytechnique. Et comme je n'étais pas polytechnicien, on m'avait surnommé le Vaché. On ne joue même pas aux cartes avec moi. J'étais vraiment de la valtaille, de rien du tout. Mais je me suis vengé parce que on a passé un examen quand même pour savoir travailler la poudre. Et le samedi, le train partait pour Berlin avec les munitions faites. Et moi, Pierre Gallet, je me suis pas dégonflé. J'ai mis, puisque je suis le Vacher, je me demande le poste modeste, le départ des trains, une fois par semaine. Je me suis dit, bon, c'est un poste mortel, mais je ne savais pas encore. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Et puis, le directeur, qui était polytechnicien, ingénieur en chef des industries navales, enfin, en haut pontife, m'a fait appeler, m'a dit, mais vous êtes un impertinent, osez m'écrire que vous, en cinq minutes, que vous voulez le poste le plus modeste. C'est moi qui choisis, c'est moi le général qui commande, c'est pas vous. Et puis, il y avait un gars qui a écouté, qui était le sous-directeur. Il s'appelait le marquis Pelon de la Barrière, tel Montpellier. Et mon marquis m'a appelé, m'a dit quand même, vous exagérez, etc. Je lui ai dit, oui, mais moi, j'y connais rien. Ça m'intéresse pas, Polytechnique. Ce qui m'intéresse, c'est l'agriculture. Il m'a dit, mais moi, je dirige la ferme pour vous nourrir. Vous savez pas. Je vais vous loger dans la ferme. Du jour au lendemain, je suis devenu le seigneur de la collinière. C'était le nom de la propriété. Voilà. Voyez mes aventures de l'époque. Quand on a 20 ans.
Alors, comment vous êtes devenu un spécialiste de la viticulture?
Eh bien, la viticulture, c'est tout fait par hasard. En sortant de la Sorbonne, en 42, oui, je change à Sèvres-Babylone. Ma famille habitait Montmartre, près du bateau Lavoie, du copain Picasso, que ma famille connaissait bien à l'époque, qui était pauvre. Et on avait un jardin avec une vigne, du Chastaillet toujours. Et en changeant, je monte dans le wagon, il y avait mon professeur de viticulture, que je n'aimais pas particulièrement, lui non plus. Il me dit, tiens, qu'est-ce que vous foutez là, regardez. Je vais vous offrir une bière. On va aller sur les grands boulevards. J'ai des idées à vous offrir. La première, il m'a dit, vous allez m'acheter une caméra. Je lui ai dit, mais c'est strictement interdit. Je vais être fusillé. Vous vous rendez compte? Les Allemands achetaient une caméra 16 mm. Je l'ai toujours. L'appareil de projection. Mais vous plaisantez. Il me dit, si, voilà l'argent. Je reviens dans 8 jours et vous vous débrouillez par les petites annonces. J'ai trouvé la dôme. Et puis il m'a dit, je vais fonder un service pour les pépiniéristes, qui en sont la profession qui est la plus en rapport avec les viticulteurs. C'est ceux qui leur vendent les plants. Et bien il m'a dit, si ça vous intéresse, je vous engage. Ah bon. J'ai dit, moi, j'y connais rien, la vigne. Il m'a dit, c'est vrai, vous n'êtes pas né au pied d'une souche. Lui était bordelais du Médoc. Et bien, vous aurez beaucoup de mal à apprendre la viticulture. Et il m'a donné le cahier des collections. Il n'y est plus jamais revenu avec moi dans les vignes. Pour la Valtaille. Mais du coup, moi, je vais apprendre à reconnaître les vignes pour contrôler les pépiniéristes, qui me tendait des pièges en changeant les étiquettes pour voir si je connaissais bien. Et j'avais engagé avec un autre copain, Agnel, avec qui nous ferons notre premier livre. Lui était fils d'un boucher à Nice, en face de l'église, de la cathédrale. Quand les bourgeois sortent, ils prennent le beefsteak le dimanche pour voir. Et tous les deux, on s'est appris comme ça à reconnaître les cépages et être imbattable. Imbattable partout. Hein. Dans tous les pays du monde où je suis passé, j'ai pu rectifier les collections. En Allemagne, en Russie, aux États-Unis. Je suis quand même l'homme de la vigne.
l'homme de la vigne, on va faire un premier pas dans la chanson.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie.
La mer. Nous sommes dans l'Occitanitude de Monsieur Pierre Gallet. Nous sommes chez lui, dans sa maison, rue Laganal à Montpellier. Monsieur Pierre Gallet, alors Charles Trenet, vous l'aimez beaucoup ?
Bah, j'aime bien, c'est mon époque. Il a commencé en 1935-36, avant-guerre. Moi, j'étais jeune étudiant, j'avais 17 ans. C'était le chanteur à la mode. Ça chantait, un speaker à la radio avait dit, ce garçon ira très loin. C'était le moment où il chantait « Je chante ». Voilà. Il y a de la joie.
La mer, les aberrés, le long des golfes clairs, et une chanson d'amour là-bas, a bercé mon cœur. Pour la vie.
Nous sommes dans l'Occitanitude de Monsieur Pierre Gallet. Alors, Monsieur Gallet, je vais vous demander, puisque vous avez commencé à parler un peu de vos travaux, qu'est-ce que c'est que l'ampélographie ?
Alors, l'ampélographie, le nom a été inventé par Pierre Viala. Ampélos, c'est la vigne en grec. Et graffé, j'écris. J'écris sur la vigne. Donc, le grand traité en 7 volumes de Pierre Viala, qui était professeur à l'école avant d'être à Paris, bah, c'est la base de la. Dans le monde entier, il y a des ampélographes. Il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a en Espagne, il y en a partout. Enfin, partout, il y a de la vigne. Là, il n'y a pas de vigne, évidemment. Bon.
Alors, quand on vous présente, on dit Monsieur Pierre Gallet, ampélographe, ou on dit professeur de viticulture ?
On dit rien du tout, on dit Pierre Gallet. Moi, je ne sais pas.
Alors, dites-moi quand même.
Voilà, donc c'est ça. Et on va faire un premier livre avec Agnel, Les porte-greffes, qui a eu un gros succès. Il y a eu 3 éditions. Parce que, au fond, personne, les pépiniéristes, n'avaient jamais écrit, n'avaient pas de renseignements, payaient pas d'impôts, seul avantage. Alors évidemment, ils ont râlé le jour qu'on leur a infligé un petit impôt. Les Français, ils n'aiment pas tellement. Voilà. Mais ça, c'était mon premier livre. Puis après, quand je serai passé à l'école, beaucoup plus tard, un monsieur qui s'appelle Giscard d'Estaing, bien connu, qui était ministre des Finances de De Gaulle, a écrit à l'école en disant « Vous allez nous former les inspecteurs des finances pour la viticulture, pour pouvoir les surveiller. » Évidemment, le sort est tombé sur moi. Mon directeur m'a dit « Allez, vous allez vous charger de ces gens-là. » Il y en avait quand même une centaine. Mais je les ai promenés dans les vignes. J'aurais fait voir comment regarder les cépages pour les reconnaître et tout. Et finalement, Giscard d'Estaing, je pense que c'est unique au monde, m'a acheté 212 exemplaires qui sont toujours à Bercy. Chaque inspecteur des finances de la viticulture a dans sa voiture mon livre. C'est quand même bien. Bon, alors, le côté financier, Giscard m'a dit, ah ben attendez, vous êtes fonctionnaire, donc vous n'avez pas le droit de gagner de l'argent sur l'État. Je vous impose 40% de retrait. Le livre, je vendais 20 francs, les moules. Plus, j'envoie la copie à l'inspecteur des impôts à Montpellier pour que vous n'oubliez pas de mentionner le reste. Ça, c'est le côté financier. Voilà. Alors, ça, c'est ce livre, quand j'ai fait le président viticulture, tout seul, je suis allé à Paris. Je me suis dit, au quartier latin, j'avais 25 ans, je vais être reçu, bien. On m'a foutu dehors comme un malpropre. Les types ont dit, vous plaisantez, un gars de 25 ans, mais on n'aide pas les jeunes, nous. On prend les académiciens, les membres de l'Institut, de la faculté des sciences, au pire. Mais vous, foutez le camp, on veut pas de vous. Je suis reparti bêtement et je suis allé voir mon imprimeur qui m'avait fait le premier livre. J'ai dit, voilà, j'ai pas d'argent, j'ai des idées, je suis honnête, je vous paierai au fur et à mesure des ventes. Il m'a dit, ça tombe bien parce que moi, j'avais un personnel important, son imprimerie à Montpellier. Il m'a dit, j'ai des creux, mon personnel, il faut rien. Je vous imprimerai, je ne fais pas de contrat avec vous. Quand j'ai un trou, je tire du galet. Ça va? Alors, sans contrat, on va travailler comme ça une dizaine d'années. Puis un beau jour, mon professeur, qui du coup me détestait, parce que j'avais du succès, a dit, moi, je veux plus voir galer dans l'imprimerie. C'est ça où je m'en retire. Alors, il m'a mis dehors. J'ai continué à travailler en me disant, je sais pas si un jour je trouverai quelqu'un. Puis finalement, un jour, je vais chez ses grands-parents pour leur dire bonjour, voir leur santé à Castelnau. Et ils étaient là avec un horloger. Ils avaient fait la guerre de 14 ensemble, avec l'armée du général Sarraï, les Dardanelles. Et il y avait un jeune. Le jeune, quand je lui dis, je suis en viticulture à l'école, il m'a dit, vous êtes avec ce salaud de Manin. Mais c'est un bandit. Il m'a foutu dehors. Il m'a dit qu'un pied noir, parce qu'il était né à Oran, lui. Il m'a dit qu'un pied noir, il n'avait rien à faire et qu'il voulait rien savoir. Foutez-moi le camp. Ah bon? Ben, je lui ai dit, écoutez, je continuerai à vous aider, mais vous mentionnerez pas mon nom. Puisque nos grands-pères ont fait la guerre ensemble, moi, je viendrai une fois par semaine à la rue Ferry, et au Crédit Agricole, ça y est toujours, je ferai le courrier, les échantillons, vous donnez surtout pas mon nom. Bon, ça marche comme ça un certain temps. Puis un beau jour, j'arrive un matin, il y avait un homme que je connaissais bien, Philippe Lamour, président de la compagnie du Baron. Et que lui, je connaissais parce que sa femme était propriétaire viticultrice à Saint-Gilles. Donc j'ai analysé son vin. Ah, l'amour me dit, allez, vous tombez bien. On va faire le passage des fonctions à ce monsieur qui est là, Céleste, c'est le futur député de l'Hérault, socialiste. Et puisque nous sommes tous les trois, on va signer. Et vous avez... Le lendemain, je reviens, je dis à Sénès, maintenant, vous avez une imprimerie, vous allez pouvoir m'imprimer. Oui, mais il me dit, c'est le Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est les financiers. Alors, j'allais les voir. Bien que j'ai eu les neveux élèves à l'école, les types ont dit, mais monsieur, d'où on vous connaît pas, on veut que vous payiez d'avance l'argent, on va chiffrer votre livre, 5 millions, intérêt à payer, tout à l'avance. Trouvez-nous une caution. Je suis allé voir mon directeur, il m'a dit, c'est une bande d'abrutis, tu vas voir, moi qui suis le grand patron, et je suis membre du Crédit Agricole aussi. Il a pris le papier en tête. Bûcher, directeur, me porte caution morale et financière pour Pierre Gallet pour la somme de 5 millions. Il m'a dit comme ça, t'es tranquille. Et voilà comment je suis sorti.
C'est une belle histoire.
Ah oui, oui, mais c'est vous dire que les bagarres, c'est méchancé.
Ben écoutez, on va faire une petite pause musicale. On va écouter le deuxième morceau que vous avez choisi. Monsieur Gallet, vous m'avez étonné de mettre Claude François dans cette programmation musicale. Vous aimez Claude François?
Bah oui, c'est ma génération. Si, quand même. Mais après la guerre, j'avais 35 ans ou 40 ans. Si, 40 ans, on n'est pas vieux.
Mais non, mais vous n'êtes pas vieux. Mais Claude François, il était plus jeune que ça quand même, non?
Bon, mais enfin, c'était... Il faut dire qu'une chose que vous ne savez pas, à l'école d'ici, il y avait un gars qui était mal vu, qui était ingénieur horticole, qui enseignait l'horticulture. Les gens le méprisaient. Vous savez, comme mes polytechniciens, on disait « Ah oui !» Mais c'est que sa femme, son père... C'était l'administrateur du canal de Suez. italien. Moi seul le savais, car j'étais reçu chez lui. Il s'appelait Gravagne. Gravagne me disait, bah, ma femme, c'est quand même la femme de l'administrateur du canal de Suez. C'est quand même important. Bon, ils ont été virés par Nasser. Enfin, c'était quand même des gens importants. Et il faisait un livre. Je lui avais dit, imprimez-le, parce que ça sera très bien. Il me dit, oui, mais j'ai une petite entorse. Je vais à l'hôpital. Il est mort sur le lit de l'hôpital. Le livre n'a pas été écrit. Sa fille, qui a épousé un professeur de fac à Montpellier, a dû le foutre en l'air. C'est perdu pour l'humanité. Et il y avait 30 ans de boulot.
Eh oui, c'est dommage.
Hein, c'est dommage.
Tout à fait.
Les gens qui travaillent et qui ne sortent rien. C'est pour ça que je travaille sur mon dernier livre.
Alors, parlez-moi de votre dernier livre, alors.
Alors, un homme célèbre à Montpellier, c'est Planchon. Quand vous débarquez à la gare, square Planchon. Vous avez la statue de Planchon, car c'est l'homme qui a trouvé le phylloxéra. En fait, avec son beau-frère et un pépiniériste de sa hutte, ils sont allés voir des vignes qui mouraient dans la basse vallée du Rhône, la région d'Orange, etc. Et sa hutte, qui était pépiniériste, a eu l'idée d'emmener une pioche. Il a arraché la souche. Il a vu des trucs, des points jaunes qui bougeaient. Il les a passés à Planchon. C'était le phylloxéra. À partir de là, on a un peu oublié sa hutte. Mais enfin, il s'est rattrapé par ailleurs. Ça a été formidable. Parce que, aux États-Unis, on va faire venir Planchon pour que les Américains lui expliquent comment vit ce parasite. Après, il enverra un de ses élèves, Pierre Viala. Et toute la, comment dirais-je, toute la qualité des documents de Planchon sont au musée de la faculté de pharmacie à Montpellier. La bile, l'épée d'académicien, le chapeau, enfin, il est là.
Alors, cette crise phylloxérique, c'est quelque chose qui a complètement transformé le paysage de la viticulture languedocienne.
Eh oui, parce que, au fond, on avait appris, au fin du 19e siècle, ça se passait dans les années 1845, les gens, les amateurs riches, pour se payer ça, faisaient venir en Angleterre, en France, en Italie, notamment, faisaient venir des plants. Et puis, en Angleterre, dans les serres, chez un riche propriétaire, un lord, le gars a vu quelque chose qui... Toutes les feuilles étaient recroquevillées. Mais comme c'était un jardinier observateur, il a remarqué que là où il mettait du soufre pour lutter contre les limaces, il n'y avait pas d'odio. Donc c'est lui qui a découvert à la fois le parasite et le remède. Bon, on lui a rien donné, évidemment. C'est toujours pareil. Mais ça, c'était le début. L'année suivante, en France, M. Rothschild, un pauvre, comme vous savez, va lui aussi dans sa propriété près de Suresnes, il va s'apercevoir qu'il a la maladie. Mais par la correspondance, il sait qu'il faut mettre du soufre. Donc il va découvrir. Et à Montpellier, un Montpelliérain qui s'appelait Henri Marès, il y a une rue Henri Marès, Montpellier, lui aussi va utiliser le soufre et multiplier les traitements, dire voilà comment il faut faire. C'est vraiment lui, le champion, qui va codifier les traitements de sophrage pour que la maladie soit maintenue. Et c'est comme ça que la maladie va se propager. Après, il va arriver le mildiou. Parce que c'est toujours pareil. Les gens font venir les plantes. Et le mildiou, il y avait des vignes à Paris à l'époque. Moi, encore dans ma jeunesse, il y en avait. Et le mildiou va atteindre Bercy, qui n'était pas encore la faculté de financiers. C'était là le chantier. Et là, quand j'y allais, j'étais jeune, les gens dans leur porte avaient en général du muscat de Hambourg. Comme ça, à midi, vous pouvez manger un peu de muscat. Ouais. C'était sur place. Voilà. Et c'est comme ça que les maladies, après plus tard, il va encore arriver dans le sud-ouest, le black rot, pourriture noire. Mais après, ça s'est arrêté là. On en avait notre compte.
Et vous avez passé votre vie, donc, à étudier tout cela.
Tout ça, et oui, et je l'enseignais. Et j'ai écrit des livres dessus.
Alors, justement, par rapport à tout cela, il y a eu en France, au début du siècle, un grand événement viticole, qui sont les événements de 1907.
Oui.
Est-ce que vous pouvez m'en parler de cet événement ?
Oui. En 1907, ça se passait avec un viticulteur de Bise-Minervois dans l'Aude, petit village, tout petit, peut-être 1000 habitants, hein, je veux dire, c'est pas...
C'était Argelier peut-être, non ?
À côté, oui.
À côté.
Argelier, Bise-Minervois, enfin, vous voyez, c'est un tout petit secteur. Et là, il y avait un gars bizarre qui va, dirais-je, lancer la révolution pour la viticulture. Et ils vont venir occuper d'abord Narbonne, dont le maire va les aider. Ils vont occuper les allées, je ne sais pas si vous connaissez Narbonne, les allées de Narbonne. Puis ils vont aller à Béziers, occuper aussi tout le bas de Béziers, le chemin de l'Orbe, et puis venir à Montpellier. Et à Montpellier, ça va être la révolte des vignerons, place de la Comédie. Voilà. Ça, c'est la grande réforme 1907.
Est-ce que vous croyez que ce que disent les livres d'histoire, voire la tradition populaire, qu'il y avait plus de 500 000 manifestants à Montpellier,
oui.
Est-ce que c'est possible ?
Mais c'est possible, oui, parce que j'ai vu des coupures de journaux, j'ai vu des cartes postales aussi, c'est-à-dire, je n'ai pas compté les gars, mais c'était noir de monde. La place de la Comédie, il y avait tous les vignerons qui étaient là. C'était quand même... Le vin se vendait pour le prix de l'eau, presque. C'est quand même une chose importante.
Et vous pensez que ces événements de 1907 ont bousculé un peu les mentalités?
Alors,
ou pas?
Ce mouvement va faire... On va obliger les viticulteurs à faire la déclaration de récolte annuelle.
D'accord. Eh bien, écoutez, ça nous rafraîchit un peu la mémoire sur ces événements. Et on va passer donc à votre troisième pause musicale.
Thank you.
Nous sommes au cœur de l'Occitanitude, chez Pierre Gallet. À son domicile même, dans la rue Lacadane à Montpellier. Pierre Gallet, c'est notre invité le plus ancien, le plus expert en vigne, en vignoble, mais aussi le plus sage, puisqu'il a presque 100 ans. Depuis les années 50, Pierre Gallet est un expert en matière d'ampélographie. Et il a publié donc des précises ampélographies pratiques publiées dans toutes les universités du monde, notamment en Europe, en Amérique. Pierre Gallet nous a entraînés tout au long de cette émission dans son monde, mais pour en finir donc de cette Occitanitude particulière, Pierre Gallet va nous faire des digressions à la fois sur la viticulture, mais aussi sur une sorte de précis politique des années passées. Et ça, c'est assez étonnant. Pour reprendre le cours de notre émission, donc, nous allons avoir une explication de texte avec Monsieur Pierre Gallet qui nous explique pourquoi le choix de Chopin dans son programme musical.
J'ai mis Chopin parce qu'il faut ne pas, on est parti en guerre pour défendre la Pologne, mais on n'a rien fait puisque Hitler s'est coquiné avec Staline pour prendre la Pologne. On n'a jamais partagé. On aurait dû faire un procès à Staline à la libération, car il était fautif de guerre. Il a zigouillé toute l'aristocratie de Pologne pour installer un régime communiste. Ouais. Faut l'oublier, ça.
Alors, le fait d'avoir mis Chopin, là, c'est lié à toutes vos souvenirs historiques.
Eh oui, c'est pour rappeler cet épisode.
Bon. Revenons à la viticulture. Un cépage, c'est quoi pour vous? Dites-moi, donnez-moi la définition du cépage.
Un cépage, depuis longtemps, depuis les Gaulois, faut pas oublier qu'on a été occupé par Jules César, quand même. Bon. Et ils ont amené des cépages au départ d'Italie, quand il n'y en avait pas, pour approvisionner l'armée de romaine. Et puis pour vendre l'excédent. C'est comme ça qu'on va vendre le vin à cette époque-là. Plus tard, ça va se développer, mais c'est le départ. Il y a donc un cépage, ça a été introduit en général d'Italie. On a retrouvé des rapports entre... Mais tout ça, vous comprenez, c'est vieux, 2000 ans. Ah bon, j'en ai passé. Puis il y a les mutations. Vous avez un cépage noir qui peut donner du blanc. Ça existe.
Alors expliquez-moi ça, parce que je ne comprends pas.
Ben, vous avez une vigne. Bon, tous les bras sont noirs. Puis il y a un bras qui donne du raisin blanc. C'est une mutation qu'on peut fixer et multiplier. Si ça n'intéresse pas, on la rejette. Mais il y a des cas où ça a été multiplié. Puis après, ça s'est dilué.
Alors, ces transmutations ou ces mutations, elles ont été accélérées dans les temps modernes, là, non?
Oui. Alors, dans les temps modernes, ça va être utilisé par les protestants, les camisards, autre épisode. Bon, à l'époque des camisards, bon, il y a l'épisode n'est pas là encore. Comme les protestants n'avaient pas le droit d'être enterrés dans l'église, ni dans le cimetière, qui était attendant, donc ils avaient dans les champs ou dans leurs vignes, ils mettaient les souches de leur famille. Donc, quand vous alliez chez un protestant dans la région, ou un pépiniériste, bon, dans mon cas, vous aviez comme ça 10, 20, 30 tombes de protestants. au moment du phylloxéra, il va y avoir l'histoire des cépages interdits. Et en particulier dans la région des Camisards, le clinton. Le clinton de l'Ardèche, cépage noir. Et ce cépage va jouer un rôle important en ce sens que, bien qu'interdit, il est toujours cultivé. En 2019, je vous donne des adresses, si vous voulez, autour de Bessèges, il y en a. Mais de là à dire que ce ne sont pas des Camisards, non, parce que ça fait un autre épisode.
Alors le clinton, restons sur le clinton, il en existe encore, hein. Il est interdit à la vente ou pas?
Oui, moi, vous savez, en France, ce qui est interdit, c'est pour les autres. Nous, Français, on continue à en vendre.
Le clinton, donc, on peut en trouver, quoi.
Oh, aucun problème. Vous montez à Valrhogue, dans le Gard, vous en trouvez à toutes les épiceries.
D'accord, ben écoutez, on a pris note, hein. On va y aller.
Voilà.
On va y aller. Bien, alors dites-moi, les crises viticoles qui se sont succédées, vous les avez observées? Comment vous avez vécu cela? Parce qu'il y a quand même des mouvements sporadiques de la viticulture. Les viticulteurs s'enflamment souvent. Ils se sont enflammés surtout. Ils étaient un peu révolutionnaires.
Ben, ils étaient un peu révolutionnaires. Quand vous rentrez chez vous et qu'il n'y a plus rien à manger, ça vous donne des idées de révolution. Hein?
Et alors?
C'est pas Brigitte et l'Élysée. Mais il faut se rendre compte. Quand quelqu'un trouvait le phylloxéra ou qu'on pépiniéris, vous disait votre commune est atteinte, quand il rentrait, c'était la mort pour les gens. Il faut se rendre compte. Ça a été décrit par Alphonse Daudet dans Le Petit Chose. Là, vous arrivez le soir, ça vous coupe l'appétit même de la soupe. Ha ! De quoi on va vivre ?
Donc, vous êtes complètement en phase donc avec ces mouvements sporadiques de la viticulture.
Et oui, oui.
Mais est-ce que vous avez été en observation jusqu'au mouvement qui ont eu lieu dans l'Aude, dans l'Hérault et tout ça?
Oui, 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 tout ça, oui. Ben oui.
Si je dis Jean Huillier, ça vous rappelle quelque chose, par exemple?
Ah ben oui, mais ça, ce sont les révolutionnaires du 21e siècle. Oui. Bon, c'est peu de choses par rapport à ce qui s'est passé au XXe siècle.
D'accord. C'est peu de choses par rapport à ce qui s'est passé en 1907, en fait.
Bon, oui. Mais ça, c'est la corporation. C'est des... Non. C'est zéro pour moi. Vraiment.
D'accord, c'est clair.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step,
along the byway. And more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say.
My Way, donc
oui.
C'est une chanson. Bah,
j'ai vu Frank Sinatra à Rio de Janeiro parce qu'il était dans un hôtel. Bon, j'étais aux bordures de Copacabana quand même, bon. Hein. Et il y était un peu plus loin. Et sur la plage en face, il y avait des Brésiliennes en bikini attendant le client pour se vendre cher. Et bien entendu, elles s'occupaient de Frank Sinatra. Pas de moi. Voilà. Et Frank Sinatra, c'était aussi, comment dirais-je, aidé par la mafia. Hein? Oui. Il touchait un pourcentage sur le trafic au Brésil, car les raisins pour faire du vin étaient achetés par les Américains. Frank Sinatra était un peu leur représentant.
Vous nous donnez des anecdotes intéressantes.
Ah ben oui, mais je vous parle de il y a longtemps, il y a 50 ans. Et Frank Sinatra, comment dirais-je, c'est lui qui va aider et qui, je soupçonne, accroché à la mort des Kennedy. Ouais.
Bon, là, il faudra aller creuser, là.
Oui, mais non, mais Johnson, le futur président qui va remplacer, c'est assez curieux. Comme il était le gouverneur du Texas, il aurait dû accompagner dans la voiture les Kennedy. Or, il est resté dans l'avion. Mais il avait apporté les documents pour être élu président de la République, sur place. Donc, dès qu'il a été tué, lui s'est fait élire Johnson, président des États-Unis.
On est un peu loin du vin, là, et de la viticulture, mais c'est intéressant, hein, votre
analyse
de la situation.
Oui.
Alors, dites-moi, vous étiez prof À l'agro, à Montpellier, vous étiez prof à quel endroit ?
Mais j'ai été professeur de 1946 à 1967.
À quel endroit ?
Mais à Montpellier, l'école d'agriculture et la faculté de pharmacie pour le diplôme des œnologues.
Et ça se passait comment, les étudiants ?
Ben, ça se passait bien, moi. J'avais un examen à passer avec... distribuer, ils achetaient mon livre s'ils voulaient, pour l'emporter chez eux. Moi. S'ils ne voulaient pas l'acheter, ils l'achètent pas. Maintenant, ils pillent directement, ils pillagent.
Et donc, vos étudiants, vous les avez repérés, quoi. C'est des gens qui, maintenant, ont pignon sur rue.
Je les retrouvais dans le monde, bien entendu. Parce que, moi... je n'avais pas d'argent, mais on recevait à l'école beaucoup d'étudiants qui étaient des fonctionnaires étrangers. Et par conséquent, ils venaient un an, deux ans, trois ans suivre des cours. Et je leur disais, comme vous êtes fonctionnaire, vous aurez besoin de moi chez vous. Débrouillez-vous pour votre gouvernement. Trouvez-moi un billet d'avion sur les compagnies aériennes de votre pays. Trouvez-moi un hôtel. Moi, je n'allais pas être dans l'Hilton. Trouvez-moi un hôtel ou une chambre dans un truc, voilà. Et je viens, vous m'alimentez avec vous, la bagnole, on fait le tour de votre pays et je règle vos problèmes.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez été l'ambassadeur de la viticulture ?
Ah oui. Mais officieusement.
C'est-à-dire ?
Mais c'est-à-dire que l'INRA, quand j'avais inventé la libération à la machine à vendanger, à machine pour reconnaître les cépages, m'avait répondu sèchement que les subalternes, on les connaissait pas, on connaissait que les patrons. Donc, moi, j'ai été éliminé d'autorité par l'INRA. Et j'ai fait ma carrière en dehors de...
Vous n'avez jamais eu un statut de patron, alors ?
Et non, j'ai pas eu de statut de professeur. On a attendu ma retraite pour donner les échelles lettres au professeur actuel. Moi, tringlé, rien. Je vis quand même.
Allô, allô, James ? Quelle nouvelle ? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour ?
Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise. On déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, 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 ah, allô, allô, Martin, quelle nouvelle ? Ma jument grise, morte aujourd'hui ? Expliquez-moi. Cocher fidèle, comment cela s'est-il produit ?
Cela n'est rien, madame la marquise. Cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise. On déplorait tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, 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 Pascal, quelle nouvelle ? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, vous, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé ?
Cela n'est rien, madame la marquise. Cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant, il faut, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien.
Madame la marquise.
Oui.
Ça vous plaît, ça?
Ah ben, c'est mon époque.
Oui, et vous dansiez là-dessus?
Après la libération, oui, on dansait. Parce que pendant la guerre, on dansait pas. Figurez-vous que, petite aparté, pour vous raconter, il y avait un gars en Italie, un professeur à Turin. Moi, j'ai enseigné à Turin. Mais Carla était à Paris, je l'ai pas connu. Mais j'ai connu sa sœur. Et, comment dirais-je, il y avait donc un professeur qui disait à tout le monde, ah, mais moi, sa femme était juive, j'ai un truc, la bombe atomique que tout le monde prépare, Hitler notamment, moi j'ai le truc pour la faire partir. Hitler interrogé a dit, t'es un joueur de mandoline, foutez-le dehors, j'en ai rien à faire. Puis le fauteur, il est donc parti par le Portugal qui était pas en guerre avec l'Italie et avec les Allemands. Il a atterri en Amérique. Et là, on l'a mis sous la pression au désert de Nevada de la compagnie des diamants, la De Beers. Là, il y a les sous, les diamants d'Afrique du Sud. Et c'est là qu'il a mis au point la bombe atomique. Voilà. Vous voyez l'histoire, comment ça s'écrit.
Ben là, vous digressez beaucoup, mais bon, c'est intéressant.
Eh oui, eh oui.
Alors, dites-moi, est-ce qu'on pourrait dire, en conclusion, que vous êtes internationalement connu de par vos cours, de vos ouvrages surtout, de la formation que vous avez donnée à tous ces braves gens, et que vous avez été mal connu en France?
Ah oui, mais en France, je m'en fiche. Moi, je suis éditeur, je vends, j'ai encore 15 tonnes de livres à vendre, alors j'en ai rien à voir.
Donc 15 tonnes, ça va, il va falloir les vendre.
Je ne sais pas si vous en vendrez.
Donc, eh bien, écoutez, nous étions dans...
Ça passera quand, ça?
Attendez, nous n'avons pas fini.
Ah bon?
Nous étions dans l'Occitanitude de M. Pierre Gallet, et c'était une Occitanitude que nous avons réalisée chez lui, rue Lacanale à Montpellier, et nous le remercions beaucoup d'avoir fait jouer ses méninges, parce que vous avez quand même une sacrée mémoire pour nous avoir parlé de tout cela. Monsieur Gallet, donc, je vous le répète, est né le 28 janvier 1921, et il est le grand expert français de la viticulture et de l'ampélographie. Merci, Monsieur Gallet.
Outsita, Outsita, attitude, Outsitanitude.
Une émission préparée par Radio Languedoc, présentée par Jean Tufou, réalisée par William Baudry.